9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche et bonne fête des pères. Les organisateurs de concerts et de festivals sont vent debout contre l'obligation du pass sanitaire cet été pour les événements de plus de 1000 personnes. Mathieu Drouot va nous expliquer pourquoi. Et Soledad Bravi publie Les amours de Zeus, la jalousie d'Héra et autres histoires amusantes, un ouvrage hilarant sur les turpitudes des dieux de l'Olympe. Elle va nous en parler en direct. Mais d'abord, les éoliennes avec Philippe Biwix. L'opposition aux éoliennes s'est considérablement renforcée ces derniers temps. Tout le monde est monté sur ses grands chevaux. Il est devenu très difficile de faire le tri entre les clichés en leur faveur et ceux qui sont en leur défaveur. Alors je me tourne vers vous, Philippe Biwix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur centralien, vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur les questions d'environnement. Le plus célèbre, c'est L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable, qui vient de ressortir en poche dans la collection Point. Vous avez l'avantage de n'être ni pour ni contre les éoliennes. Vous leur trouvez des avantages et des inconvénients. Hein.
Oui, on pourrait dire ça comme ça, effectivement.
Donc, je compte sur votre neutralité, votre objectivité, si tant est que cela est possible. Je rappelle d'abord que la France compte actuellement 8400 éoliennes sur son territoire et veut en implanter autant d'ici 2028. Alors, à chaque fois, on fait remarquer que c'est beaucoup moins qu'en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni. Alors, ma première question, Philippe Biwix, est-il exact que ces 8400 éoliennes ne produisent que 25% de l'électricité qu'elles peuvent produire?
Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est effectivement ce qu'on appelle le facteur de charge. Évidemment, les éoliennes ne vont pas tourner quand il n'y a pas de vent, mais elles vont tourner également plus lentement quand il y a seulement un peu de vent, ou pas tourner du tout d'ailleurs quand il y en a trop, pour des questions de sécurité. Et donc au total, effectivement, elles produisent, alors pour ce qu'on appelle l'éolien onshore, donc l'éolien terrestre, de l'ordre de 25% effectivement de la puissance de ce qu'elles produiraient si elles produisaient à puissance nominale pendant toute l'année 24 sur 24. Donc effectivement, c'est bien 25%, oui.
Est-ce que quand on parle d'énergie éolienne, on a tendance à penser que c'est une énergie illimitée? Est-ce que c'est vraiment renouvelable ou pas? Le vent, c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie illimitée, mais l'éolienne elle-même?
Alors effectivement, le vent, c'est une énergie qui dérive en fait de l'énergie du soleil, hein, puisque évidemment c'est le fait que l'irradiation solaire soit pas tout à fait la même sur la planète à tous les endroits, et le fait que la planète tourne qui produit les vents, en tout cas des vents dominants, donc c'est aussi renouvelable que du solaire, et donc ça va durer le temps que le soleil durera. Mais effectivement, ce qui n'est pas complètement illimité, c'est le convertisseur, c'est-à-dire effectivement cette éolienne qui va être nécessaire pour capter cette énergie mécanique et la transformer en énergie électrique. Alors c'est l'éolienne elle-même, mais ce sont aussi des sous-stations pour ensuite ajuster les fréquences de l'électricité pour l'envoyer ensuite dans le réseau. Ce sont toutes des séries de câbles, ce sont aussi des installations qui vont être nécessaires pour assurer la maintenance, par exemple, de toutes ces éoliennes. Et donc là, effectivement, la fabrication d'une éolienne, elle est tout sauf, malheureusement, sauf renouvelable. Alors vous avez bah, typiquement d'abord des choses qui sont issues du pétrole, hein, donc ça va être les polyesters, les résines, l'époxy pour la fabrication des pales. Hein, typiquement, vous allez avoir ensuite évidemment tous les métaux qui vont être nécessaires pour fabriquer le mât, enfin la tour, la nacelle, le générateur lui-même. Et puis vous allez avoir aussi du ciment, des aciers pour tout ce qui est fondation. Donc effectivement, on a des dispositifs d'énergie renouvelables, on va dire, effectivement, qu'on peut qualifier de vertes ou de plus vertes ou de plus écologiques que des énergies fossiles très émettrices de gaz à effet de serre. Mais on est très accroché quand même au système carbonifère, si je puis dire, enfin, disons, de pétrolier, gazier, chimique, puisque on ne sait pas fabriquer une éolienne à partir d'une éolienne, quoi, si vous voulez.
Et justement, une éolienne, ça dure environ 25 ans. En fin de vie, on en fait quoi? Est-ce qu'elles sont recyclables?
Alors elles sont recyclables, elles sont pas toujours recyclées à date. Il y a évidemment des jolies photos qui ou des films qui circulent sur internet avec ces pales qui sont enterrées. En l'occurrence, c'est plutôt aux États-Unis où ils ont peut-être une approche un peu différente. Alors chez nous, les pales seraient plutôt incinérées, mais elles sont effectivement en poids, hein. On peut dire que un peu à gauche à droite, notamment dans la communication gouvernementale, qu'elles sont recyclables à plus de 90 ou 95%. Et en poids, c'est vrai, puisque effectivement l'essentiel du poids, c'est l'acier des tours, enfin de voilà des mâts, de la nacelle, et donc on va recycler effectivement cet acier. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que même dans la partie du recyclage, en fait, ça convoque beaucoup d'autres métaux que l'acier. Et on va trouver du cuivre, évidemment, pour toute la partie des bobinages électriques. On va trouver du zinc, hein, parce que c'est souvent de l'acier galvanisé pour résister à la corrosion. On va trouver du manganèse, du chrome, du nickel, plein de choses un peu bizarres. Il y a aussi les fameuses terres rares dont on parle parfois, alors qu'ils sont pas si rares que ça, hein. C'est en l'occurrence souvent du néodyme avec un peu de dysprosium. Ça sert à faire des aimants, et c'est surtout dans les éoliennes de très forte puissance qu'on les utilise, et donc notamment en offshore. Aujourd'hui, l'essentiel des éoliennes qui sont installées en France ne contiennent pas ou assez peu de terres rares.
On fait une pause, Philippe Biwix, on se retrouve juste après, on continue d'explorer la controverse sur les éoliennes.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Philippe Biwix, qui est ingénieur et qui est l'auteur de « L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable ». Ça vient de reparaître en poche dans la collection Point. Et le offshore, alors, puisque jusqu'à présent on a parlé du onshore, pour une seule éolienne, il faut la moitié d'un terrain de football en béton au fond de la mer, dit-on. Est-ce que c'est exact? Parce que si c'est exact, ça n'a pas l'air très écologique.
Alors effectivement, enfin, disons que le offshore, il faut comprendre qu'il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est évidemment qu'il y a a priori, enfin on pensait en tout cas il y a quelques années qu'il y aurait moins d'opposition évidemment que sur de l'éolien terrestre, qui est plus proche des habitations et plus impactant potentiellement sur le paysage. Et puis il a un deuxième intérêt, c'est que son fameux facteur de charge justement est plus élevé, parce qu'il y a un régime de vent qui est globalement plus régulier. Donc au lieu d'être à 25%, on va typiquement pouvoir monter à 40-45%, voire plus, en fonction des lieux où on va l'installer. Donc évidemment, pour la même capacité installée, ça va être intéressant. Le petit inconvénient, ou le gros inconvénient de l'offshore, c'est que c'est plus compliqué d'aller faire la maintenance, évidemment. Il faut des bateaux plutôt que des camionnettes, on va dire. Et donc, il y a une course au gigantisme. Hein. Il y a un intérêt à mettre le moins de mâts possible pour aller les visiter régulièrement. Et donc, vous allez, du coup, faire des choses qui sont de plus en plus grosses, avec effectivement des éoliennes. Alors là, je pense que le terrain de football, vous faites référence à Saint-Brieuc. Donc, ce sont des éoliennes de 8 mégawatts. Donc, effectivement, c'est plus de 200 mètres de haut. Ça doit être 160 mètres de diamètre pour les pales. Donc effectivement, il faut des fondations assez assez grosses, typiquement de plusieurs milliers de tonnes, et tout ça évidemment ancré avec des pieux au fond de la mer. Alors on imagine dans le futur, il commence à y avoir des projets, pas en France, mais qui sortent, où ça sera un peu moins douloureux peut-être pour les fondations, parce que ça sera du offshore ancré et non pas posé sur le fond de la mer. Mais effectivement, il y a la question de l'impact de la biodiversité, qui, je pense, est beaucoup moins maîtrisé quand on est en sous-sol sous-marin que quand on est, on va dire, dans un champ au milieu de la Beauce ou sur une colline, je ne sais pas trop où. Donc effectivement, c'est une vraie question, cette question de l'impact sur la biodiversité.
On parle d'effet récif. Ce serait comme une épave tapissée de moules où les crabes se cachent et où les poissons viennent se nourrir. Vous n'y croyez pas?
C'est pas que j'y crois pas. Je trouve qu'il y a un petit peu de caricature, peut-être d'ailleurs d'un côté comme de l'autre. C'est comme pour le onshore, là, sur la question des oiseaux. Là, vous savez qu'on parle de peut-être entre 1 et 10 ou enfin on, ouais, 10 ou 20 oiseaux par an et par éolienne. Alors on compare ça à un chat, en disant que le chat errant, c'est 60 oiseaux par an, donc c'est beaucoup plus que chaque éolienne. Bon, sauf qu'on oublie de dire, dans la subtilité, que ce sont pas forcément tout à fait les mêmes oiseaux, quoi. Il y a un quart des oiseaux, quoi, qui sont dans la fameuse étude de la LPO de 2017 à laquelle tout le monde se réfère. Il y a un quart des oiseaux qui sont des rapaces diurnes, donc à ma connaissance, les chats errants se jettent pas sur les faucons, les éperviers et les milans royaux, quoi, vous voyez. Donc sur le offshore, c'est la même chose, bien sûr, que une épave qui est là depuis 40 ans ou depuis 30 ans, j'en sais rien, et ça va être potentiellement un intérêt pour la biodiversité, encore que ça dépend du sous-sol marin qu'il y a. Il y a des sous-sols qui sont déjà roucheux et qui réclament pas d'avoir des récifs en plus. Et puis par contre, quand vous allez réaliser des travaux, là, ça va quand même être un petit peu violent en termes de turbidité, de boue que vous allez remonter, etc. Vous allez quand même avoir un impact qui est très très fort. Donc, quel sera l'impact 50 ans plus tard, j'en sais rien, mais comme il va falloir tous les 25 ans enfants remettre ces satanées éoliennes, parce que évidemment on sera arrivé en fin de vie, on se dit que l'impact globalement contribue, enfin tout ça, ça va contribuer à industrialiser un peu plus l'environnement, que ça soit maritime ou terrestre.
Et le coût élevé, ça, les opposants aux éoliennes en parlent beaucoup. Alors on sait que, comme la plupart des énergies renouvelables, l'énergie éolienne est subventionnée, hein, mais le coût de production d'un mégawatt-heure serait de 60 euros, selon le ministère de la Transition écologique, et ça monterait à 150 euros dans la baie de Saint-Brieuc, par exemple, pour la raison que vous venez de nous expliquer, d'ailleurs.
Et globalement, effectivement, on est sur des montants qui vont être de l'ordre de 50 à 70 euros par mégawatt-heure. Hein, c'est un peu l'unité de calcul dans le prix de gros de l'électricité, on va dire. Et puis, on peut monter en offshore, effectivement. Alors, effectivement, la référence était plutôt autour de 130, 150 euros par mégawatt-heure, mais je crois que ça a descendu beaucoup. Et il me semble que dans un des derniers appels d'offres, notamment à Dunkerque, on était beaucoup plus bas. Je crois que c'est 44 euros par mégawatt-heure, donc, parce qu'il y a peut-être un régime de vent plus important. Donc, ça va baisser. Et globalement, si on compare alors l'EPR, en ce moment, on parle de 120, 130 euros par mégawatt-heure, mais bon, ça augmente un peu tous les ans au fur et à mesure que le chantier prend du retard. Mais voilà, et le nucléaire, il est considéré comme étant autour de 50, 55 euros du mégawatt-heure. Et là encore, il peut y avoir une question sur le provisionnement lié au démantèlement des centrales et lié à la gestion des déchets à vie longue. Donc finalement, ça fait pas forcément, sur les 20 prochaines années ou 30 prochaines années, ça fait pas forcément des coûts qui sont si énormes que ça, quoi.
Et la nuisance visuelle, sonore ou pour la santé, alors c'est très subjectif, mais sur ce sujet, vous avez quelque chose à ajouter, Philippe Biwix ?
Ce qui n'est pas subjectif, c'est le fait qu'effectivement, il faut installer beaucoup plus de dispositifs. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, entre si vous prenez une tranche de centrale nucléaire, sachant qu'en général, sur les sites, vous en avez plusieurs, c'est de l'ordre de 1 gigawatt. Donc, c'est peut-être 500 fois une éolienne de 2 mégawatts, hein, pour prendre un chiffre un peu standard sur l'éolien terrestre. Mais ça produit peut-être 3 fois moins, enfin, le facteur de charge est 3 fois plus faible, donc ça veut dire qu'il vous faut peut-être 1500 ou 2000 éoliennes pour remplacer une tranche de centrale nucléaire. Et donc, évidemment, vous allez avoir une dispersion sur le territoire qui est bien plus importante. Donc, après, est-ce que le paysage, certains paysages agricoles qui ont été vraiment détruits par le remembrement et le productivisme des 50 ou 60 dernières années, est-ce que c'est si beau que ça, des champs à perte de vue et planter 3 éoliennes au milieu, est-ce que ça vient vraiment dégrader? Donc, je pense que ça dépend vraiment des sites, et évidemment, c'est assez à contextualiser pour vraiment se rendre compte de l'impact, quoi.
Je vous remercie, Philippe Biwix. Je renvoie à votre livre « L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable ». Ça vient de ressortir en poche dans la collection Point. On se retrouve dans un instant avec un producteur de concert, c'est Mathieu Drouot.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Mathieu Drouot.
Bonjour Frédéric. Merci.
Vous êtes le directeur général de Gérard Drouot Productions. Alors Gérard Drouot Productions, c'est Van Morrison à l'Olympia juste avant le premier confinement. Les Stones à Marseille pour le No Filter Tour, c'était vous. Oui. Le Hellfest, ça n'a pas eu lieu cette année, mais c'est vous aussi. Aznavour à Bercy, c'était vous. David Gilmour au Château de Chantilly, c'était vous. Leonard Cohen à l'Olympia, c'était vous également. Alors on ne va pas parler de la fête de la musique, on va parler du fait que vous êtes membre du SNES, le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacle, qui vient d'adresser une lettre ouverte à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, une lettre ouverte intitulée « Le pass sanitaire, une impasse pour les concerts ». Alors qu'est-ce que vous lui reprochez au pass sanitaire? En premier lieu, vous trouvez ça injuste. Pourquoi est-ce que les concerts, les festivals en plein air sont astreints au pass sanitaire et pas les musées ou les parcs de loisirs qui reçoivent pourtant autant de monde?
C'est une question que je me pose et qu'on se pose tous dans le syndicat. On ne comprend pas pourquoi il y a une iniquité entre les cellules de rassemblement qui pourtant sont très semblables, avec du public qui déambule, qui s'assoit, qui se lève, etc.
Oui, et parce que Cédrico, le secrétaire d'État, avait dit bon, ben, la différence, c'est qu'il y en a, il y a des endroits où on circule et d'autres pas. Il laissait entendre que dans les concerts, on ne circule pas, alors que dans les parcs de loisirs, on circule.
Oui, et puis on nous a dit que les festivals pourraient se tenir cet été dans des configurations assises. Et finalement, on pourrait envisager des festivals en configuration debout, mais avec une jauge de 4 mètres carrés par spectateur, ce qui est 12 fois inférieur à la jauge actuelle. Et vu comment là, l'épidémie décroît fortement, on se demande si ces mesures sont pas datées maintenant.
On a l'impression surtout qu'au fond, on vous avait prévu tout un protocole sanitaire, vous l'avez respecté, et puis au dernier moment, vous ajoutez le pass sanitaire, et ça passe pas, en fait. Il passe pas, le pass sanitaire.
Bah, en fait, on n'est pas fermé. L'État et le gouvernement nous ont beaucoup accompagnés depuis longtemps. Donc, on est, quand on nous propose ce type de protocole, on dit pas non tout de suite. On veut bien essayer, sauf qu'il n'y a pas d'accompagnement vraiment du ministère de la Santé là-dessus. Les autorités de santé ne prévoient pas le personnel de contrôle pour le pass sanitaire.
Ah oui, ça c'est important, ça fait partie de vos revendications. Vous voulez que vous soyez accompagné financièrement pour embaucher du personnel supplémentaire. C'est vrai que dès l'instant où on demande le pass sanitaire, il faut demander aussi la carte d'identité.
C'est une logistique.
Et donc il y a des gens, il faut engager du personnel supplémentaire. C'est obligatoire.
Mais quand on fait un festival et que les forces de police viennent sécuriser les abords des lieux, l'État le prévoit. Donc pourquoi ne pas prévoir les forces de l'État pour l'accueil sanitaire pour un festival?
Vous signalez également que les gens réservent moins que prévu. Ils ont peur de ne pas être remboursés si leur passe sanitaire n'est pas conforme.
C'est une vraie question. Je pense que déjà, il y a un côté anxiogène qui fait que quand on vous dit qu'il y a un passe sanitaire, on n'a pas forcément envie d'aller sur le lieu de l'événement. Parce que c'est vrai que, bon, il faut être vacciné, mais les premiers retours que l'on a des festivals qui se sont tenus sont que les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a les 2 semaines entre la deuxième dose de vaccin et le moment où vous pouvez avoir un pass sanitaire valide. Il y a le test PCR qui est de moins de 48 heures. Si vous allez à un concert un samedi soir à 20h et que vous avez fait votre test PCR un jeudi à 17h, on vous dit ça fait 51 heures et c'est trop tard.
Et dans ce cas-là, on peut demander à être remboursé ?
Je vois pas comment on peut éviter qu'un spectateur qui a son billet, qui est venu à la séance à l'heure, ne soit pas remboursé si on lui refuse l'entrée. Enfin, évidemment, oui.
Oui, évidemment. Il y a aussi les effets toxiques, le contrôle du pass sanitaire et de la pièce d'identité, ça allonge le temps de vérification, donc la file d'attente.
C'est ça, c'est qu'il y a des files d'attente qui se créent maintenant, non pas pour contrôler les billets comme on a l'habitude de le voir, mais pour contrôler le pass sanitaire des gens, ce qui fait que les gens subissent une double file d'attente et ça crée un effet d'entonnoir à l'entrée des lieux qui me semble ne pas réduire les risques que l'on cherche à réduire finalement, puisque on veut un pass sanitaire pour réduire les risques de propagation de virus ou quoi dans un spectacle, mais finalement vous créez d'autres entonnoirs et vous créez d'autres problèmes avec ce contrôle, vous compliquer les choses aussi. Donc moi, je crois que le public est en sécurité à l'intérieur de l'enceinte et que le meilleur moyen de réduire les risques, c'est qu'il puisse rentrer vite en salle, voir le concert à l'heure, qui n'aura pas de retard puisqu'il n'y a pas de file d'attente, et qu'il puisse rentrer ensuite rapidement chez soi. Et c'est pas ce qu'on constate pour l'instant.
Plus la file d'attente pour se faire rembourser, évidemment.
Ah bah après, oui.
Alors je l'ai vu de mes yeux d'ailleurs à l'Olympia, où il y avait à la fois l'effet entonnoir à l'entrée, parce que tout le monde arrivait avec ses tests, son passe vaccinal, son passe vaccinal, sa carte d'identité. Puis ensuite, il y avait l'effet entonnoir devant la pharmacie d'à côté pour tous ceux qui n'avaient pas le test requis et qui donc allaient se faire tester.
C'est ça. Et bon, il y a aussi des gens qui ont attrapé le Covid, donc qui pensent être immunisés, ils ont fait un test sérologique et ils pensent être immunisés, ils ont les anticorps, etc. Mais ce certificat ne rentre pas dans le pass sanitaire. C'est donc les gens. Au final, le pass sanitaire est ouvert à beaucoup de cas. Il n'y a pas que la vaccination, il y a le test négatif ou positif de moins de 6 mois. Mais au final, c'est très très compliqué. Et au final, on est en train de casser la dynamique de reprise des spectacles qui n'en a pas besoin cet été.
Vous dites également que dans cette lettre ouverte à Roselyne Bachelot, que le pass sanitaire risque d'instaurer une responsabilité juridique à l'encontre de l'organisateur de spectacle. De quel ordre ?
Vous savez, à partir du moment où vous créez un moyen de contrôle, il y a forcément des faux qui vont circuler. Je veux dire, je pense que c'est un secret pour personne. Il y a des faux QR codes qui peuvent circuler sur Internet. Il y a des faux tests négatifs qui peuvent circuler. Et l'organisateur n'est pas du tout armé pour contrôler cela. Donc, quelle est la responsabilité juridique qui est engagée si jamais quelqu'un qui a triché sur le pass sanitaire rentre dans un rassemblement et crée un cluster dans une salle, si vous voulez. Ça pose beaucoup de questions. question. Je crois qu'il faut revenir, profiter maintenant que l'épidémie vraiment est en chute libre et revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, faire confiance à la responsabilité individuelle. Moi, je savais, c'est quand on est malade et puis qu'on peut pas aller à un spectacle parce qu'on est malade, ben on vient pas, c'est tout. Voilà, on va pas essayer de forcer la porte.
Mais Mathieu Drou, vous savez bien que la clientèle des concerts, votre clientèle, elle a plutôt entre 18 et 39 ans. Et c'est justement ceux à qui on ne fait pas confiance, vous avez remarqué.
Oui, oui, et puis c'est ceux qui se remettent bien de la Covid aussi.
C'est ceux qui se remettent bien de la Covid, c'est ceux qui n'ont pas eu encore le temps de se faire vacciner, c'est les derniers de la liste, et c'est ceux qui on envoie la police en général dès qu'ils se rassemblent. Donc c'est pour ça, vous ne pensez pas qu'on a instauré le pass sanitaire et qu'on n'est peut-être pas prêt de l'enlever.
C'est une crainte, c'est vrai, mais bon, de ce qu'on nous a dit, le pass sanitaire doit s'arrêter le 30 septembre à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Maintenant, si vous voulez, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'iniquité entre les rassemblements. Les salles de spectacle ou les lieux de festival ne sont pas plus contaminants qu'une gare ou qu'un aéroport ou que n'importe quel type d'établissement qui reçoit du public. Je pense qu'il faut sortir de ce dogme que le spectacle vivant et les rassemblements de spectacles vivants ou de sport, parce que je crois que les stades de foot aussi sont régis aussi par le pass sanitaire, il faut sortir de ce dogme que ces rassemblements-là seraient plus dangereux pour la santé que chacun plutôt que tous les autres qui, depuis des mois maintenant, ont rouvert et sans distanciation sociale et sans mesures particulières.
Merci Mathieu Drou. On se retrouve dans un instant. On va parler de Zeus, des rats et de l'Olympe en général et même en particulier.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Soledad Bravi.
Bonjour Frédéric.
Vous publiez un livre sur les turpitudes des dieux grecs. Ça s'intitule « Les amours de Zeus, la jalousie des rats et autres histoires amusantes ». Vous avez fait les textes et les dessins et c'est hilarant. C'était pas gagné car il s'agit tout de même d'un ramassis de criminels sexuels multirécidivistes qui ont commis à peu près tous les péchés du décalogue. Vous n'avez rien inventé, hein, tout est dans la mythologie grecque.
Exactement, oui, ils étaient vraiment affreux, brutal, c'était atroce.
Ouais, et en plus ils appartiennent tous plus ou moins à la même famille, hein. Ils sont tous parents, et ça viole comme dans un bois.
Exactement.
Zeus par exemple, je trouve que c'est Harvey Weinstein Zeus, mais en mille fois pire.
C'est vrai, mais c'était quand même il y a 3000 ans, alors que Weinstein c'était il y a quelques années.
Oui, vous pensez que ça l'excuse parce que...
Non, ça l'excuse pas, mais en tout cas, l'époque était beaucoup plus violente, beaucoup plus... hard, il n'y avait pas de règles, c'était vraiment le patriarcat dans toute sa splendeur. C'est un peu regrettable que ça se passe encore il y a 3 ans.
Quand on pense que les journalistes, pour le flatter, surnomment Emmanuel Macron Jupiter, qui est le nom latin de Zeus, s'il savait de quoi s'est rendu coupable Zeus, peut-être qu'il changerait de surnom, non ?
Oui, c'est un peu fort.
Le consentement, il ne sait pas ce que c'est, il viole sa mère, il viole sa sœur, il l'épouse après, Héra, c'est la sœur de Zeus. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais même sa première femme métisse, elle n'a rien demandé, elle court comme une folle, elle n'arrête pas de se transformer pour essayer de lui échapper, et hop, il la chope. Donc de toute façon, dès qu'il rencontre une femme, il abuse d'elle.
Et quand il ne viole pas, il est capable de toutes les ruses pour parvenir à ses fins. Et comme il a des pouvoirs surnaturels, il se transforme.
Il se transforme ou il transforme les maîtresses pour que Héra ne puisse pas avoir une emprise sur elle et faire des trucs absolument atroces, comme pour Lamia par exemple, qui la pauvre se retrouve enceinte et Héra la retrouve et lui tue tous ses enfants les uns après les autres. La pauvre devient folle, évidemment, parce que ça rendrait folle n'importe qui. Et donc, elle devient jalouse des autres mamans qui ont des enfants normalement. Et donc, elle commence à tuer les autres enfants, à les écorcher et à les manger. Et puis, Héra n'en a pas assez. Et donc, elle l'empêche même de dormir. Donc, la pauvre Lamia passe ses journées et ses nuits, les yeux écartés. Et Zeus, sans doute par culpabilité, gentiment lui permet de retirer ses yeux. Donc Lamia retire ses yeux et les met dans un vase pour pouvoir dormir. Mais quand elle a récupéré le sommeil, elle en devient pas pour autant plus gentille. Elle continue de manger les enfants. Mais en fait, ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est que Zeus, qui a tous les pouvoirs, au lieu de trouver une façon qu'elle puisse échapper à Héra, lui permet juste de retirer ses yeux, donc c'est vraiment atroce.
Mais vous dites qu'il a un sentiment de culpabilité, permettez-moi d'avoir des doutes, il a quand même très mauvais caractère, il n'aime pas beaucoup qu'on lui reproche ses écarts, il tue beaucoup de monde lui-même, c'est un prédateur sexuel, mais c'est aussi un assassin, et il torture aussi pas mal.
C'est vrai, il supporte pas qu'on lui dise non en fait ou qu'on le repousse, donc il est absolument odieux. Mais quand même, quand il a parfois pour ses maîtresses quelques égards, et donc si elles sont brûlées à cause de lui, il va faire qu'il pleuve pour empêcher qu'elles soient complètement cramées. Donc c'est quand même une forme de gentillesse, sans doute poussée par la culpabilité, voilà. Ouais. Comme pardon de vous couper, mais comme Héphaïstos, par exemple, le fils d'Héra, qui le fait tomber du haut de l'Olympe parce que il s'est permis de l'insulter. Mais après, pour réparer sa faute, il le fait se marier à Aphrodite, donc c'est quand même sympa.
Moi, quand j'étais petit, je raffolais des mythes et légendes de la Grèce antique, comme beaucoup d'enfants. Et je me disais, c'est dur de résister à la tentation quand on est un dieu. Je leur trouvais des excuses.
Bah oui, c'est vrai, puisqu'on a tous les pouvoirs. Mais c'est surtout parce que les histoires sont pleines d'imagination, elles sont très drôles, il y a des rebondissements. Donc c'est vrai qu'on en est fasciné par tous ces gens qui habitent en haut d'une montagne, sur un nuage. Ça fait rêver.
Mais vous dites, c'est très drôle. Comment vous avez fait, vous, pour rendre tout ça si drôle, tout en nous épargnant rien de leur vice et de leur cruauté, hein ? Quand on en fait la liste, ça n'a vraiment rien de drôle. Alors, par quelle mystérieuse torture d'esprit vous êtes-vous dit, je peux faire rire avec ça ?
Mais parce que c'est très drôle, il y a plein de choses. En fait, dans le sinistre et dans la violence, il y a des choses très drôles. C'est-à-dire que quand ils doivent tuer quelqu'un, au lieu de le tuer avec un couteau simplement, ils vont l'écarteler avec des chevaux. Moi, ça me fait rire parce que cette surenchère, en fait, est risible. Voilà. Et puis il y a toujours des choses absolument magnifiques quand, quand il tue quelqu'un, quand le pauvre Hercule tue l'hydre et qu'il essaye désespérément de cautériser les plaies des coups, ils n'arrêtent pas de repousser, les têtes n'arrêtent pas de repousser. Ça, je trouve ça, charmant, en fait. Dans le truc horrible, il y a des choses très rigolote.
Et Hercule, on l'aime bien, normalement, c'est un héros. Il y a même un dessin animé Disney, hein, La gloire d'Hercule. Or, Hercule, c'est Xavier de Dupont de Ligonnès. Hein. Il a assassiné sa femme et ses enfants.
Mais il a assassiné sa femme parce que Héra l'a rendue folle. Et donc il est poussé en fait par une force obscure qui fait qu'il tue la pauvre Mégane et ses enfants. Et donc du coup, il va devoir faire les 12 travaux pour comme punition. Voilà. Et en plus, Héra lui met un cousin petit et odieux pour gérer les 12 travaux et dire si c'est bien fait ou pas. Alors qu'il n'a aucun, l'autre est minable, mais tout d'un coup, c'est encore pire parce que l'autre se comporte comme un chefaillon face au grand Hercule.
Ouais, et on parle toujours des 12 travaux, mais il y a après les 12 travaux et là, après les 12 travaux, Hercule n'a plus de limite. Hein, il n'arrête pas de tuer des gens sans raison.
Oui, il sauve des gens aussi. Il faut pas voir tout noir, en fait. Moi, j'essaye de voir le côté positif pour rendre les choses sympathiques.
Oui, je me demande si c'est d'ailleurs, je disais tout à l'heure, tous les enfants adorent la mythologie grecque, mais après avoir lu votre livre, je me demande si c'est bien prudent de les laisser fréquenter des cinglés pareils.
Non, mais celui-là, il n'est pas pour enfants, parce qu'il y a trop de viols, Oui, on viole trop ses sœurs, sa mère, c'est absolument abominable. Non, c'est à partir de 11-12 ans quand on commence à avoir la notion de faire la différence entre les histoires et la réalité.
On fait une pause, Soledad Bravi, et on se retrouve parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les amours de Zeus, la jalousie d'Héra et autres histoires amusantes, ça vient de paraître chez Rue de Sèvres et c'est signé Soledad Bravi. Vous m'avez fait mourir de rire, Soledad Bravi, à plusieurs reprises quand j'ai lu ce livre, et notamment avec Héra. Héra, on l'a dit, c'est la sœur de Zeus, c'est aussi sa femme. On l'appelle Junon dans la mythologie romaine. Ce qui est drôle, c'est qu'une harpie pareille, qui est quand même une criminelle, elle aussi terrible, elle est la déesse du mariage et de la fécondité. Hein, et ce sont les gouttes de lait échappées de son sein qui ont formé la voie lactée. On en a une image formidable d'Héra.
Oui, bah oui, parce qu'on ne la connaît pas bien en fait, mais elle est poussée par la jalousie, parce que Zeus la trompe tellement que elle n'arrivant pas à affronter Zeus, elle affronte machiavéliquement, elle embête toutes les maîtresses et les conquêtes de Zeus qu'elle connaît. Et surtout, en fait, c'est ça qui me choque le plus, la descendance. Et Hercule, bah ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est absolument atroce avec lui, mais avec plein d'autres enfants. C'est quand même super pervers.
Oui, et c'est la déesse du mariage et de la fécondité. Voilà, ça donne une idée du reste. Il y a Ariane qui m'a fait beaucoup rire aussi. L'expression « le fil d'Ariane », au fond, racontez-nous, parce qu'on oublie souvent à quoi c'est dû, cette expression.
Bah c'est Ariane qui aide Thésée en fait pour qu'il puisse sortir du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Elle lui donne la clé, mais elle lui fait promettre de l'épouser dès qu'il sera revenu à Thèbes. Et donc elle lui donne une pelote de laine, en fait exactement comme les petits cailloux du petit pousset. Elle lui donne le fil de laine pour qu'il puisse sortir. Et donc Thésée le déroule en entrant dans le labyrinthe. À la force de ses poignets, il tue le Minotaure et il ressort grâce au fil qu'il a laissé pendre, en tout cas traîner jusqu'à la sortie. Et en partant, il oublie Ariane sur la plage parce qu'elle s'est endormie. Et donc, évidemment, il ne l'épousera pas. Voilà, ça, je trouve ça vraiment très drôle.
Oui, il remonte sur le bateau et il oublie Ariane. C'est quand même assez formidable. Hein. Et pourtant, Thésée, lui aussi, on l'adore.
Mais oui, on l'adore parce qu'il y a toutes les histoires en fait sont très riches, parce que en plus quand il va revenir, il devait mettre des voiles blanches à son bateau pour prévenir son père que il avait réussi à tuer le Minotaure, et en fait le bateau, il oublie alors qu'il a que ça à faire a priori pendant les je sais pas combien de mois de voyage, il oublie de remettre les voiles, et donc son père, en voyant le bateau arriver et les voiles noires, se jette dans l'eau. Et son père s'appelle Égée, et quand il se jette dans l'eau, ben, la mer portera son nom, qui s'appellera la mer Égée. Voilà, et tout est très poétique et absolument magnifique. Donc c'est vrai que en travaillant dessus, je me régale, et donc j'essaye en racontant les histoires, ben, que vous vous amusiez aussi.
Mais Thésée, par exemple, et c'est pas le seul dans la mythologie grecque. On se dit, il y en a peut-être qui sont peut-être un petit peu cons, et Thésée en fait partie. Zeus n'oublie jamais rien, est d'une intelligence redoutable. Héra, c'est la même chose. Thésée.
Ben oui, ils sont forts. En fait, ce qui, je pense, amusait à l'époque, c'est cette espèce de courage, qu'ils soient absolument invincibles, qu'ils puissent tuer des monstres gigantesques. Et Thésée est un peu comme Hercule, il va pas arrêter d'en tuer. Et donc, oui, il oublie une femme sur la plage, voilà, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, en fait.
Ouais. Et Œdipe, pourquoi est-ce qu'il a fasciné tant de tragédiens ?
Bah, c'est parce qu'il a couché avec sa mère. Au départ, je pense que c'est ça, c'est qu'il tue son père et qu'ensuite il couche avec sa mère. Et donc évidemment, il est tragédien, puis évidemment Freud. Mais c'est vrai que l'histoire est incroyable. Et en fait, tout part toujours de l'oracle, où à chaque fois qu'on va accoucher ou qu'on veut avoir un enfant, on va voir l'oracle, et l'oracle prévient le père d'Œdipe, Laios, que son fils le tuera. Donc Laos veut s'en débarrasser et attache le bébé à un poteau, à un pieu, en espérant qu'il se fasse manger par des animaux. Et seulement il est récupéré. Œdipe grandit dans une famille qui n'a pas pu avoir d'enfants, un roi. Et ensuite, Œdipe lui-même, quand il a 14 ans, 15 ans, il va voir un oracle et on lui dit « tu vas tuer ton père ». Et il pense que c'est son père adoptif qu'il va tuer. Donc il s'en éloigne pour éviter de le tuer. Et en fait, sur le chemin, en allant je ne sais plus où, à Thèbes aussi. Ah oui, Thésée, c'était à Athènes, pardon. Et quand il va à Thèbes, sur le chemin, il croise un char et le passager et le chauffeur sont odieux avec lui. Et donc, il les tue les deux. Et le passager, c'était son père, Laos. Donc, c'est comme ça, la prédiction est juste de l'oracle. Et évidemment, comme il n'y a plus de roi, on va le marier avec la veuve qui est donc sa mère Jocaste. Mais avant, en plus, il y a l'histoire absolument incroyable du Sphinx avec la question du Sphinx. Donc en fait, c'est toutes ces histoires à tiroir qui font qu'on aime tous ces héros, même s'ils sont horribles, même s'ils couchent avec leur mère. En fait, on est fasciné par l'histoire plus que par les personnages. C'est comme pour les Sopranos, on aime Tony. Voilà, il est atroce, mais c'est le personnage de la série qu'on préfère.
Mais en même temps, je crois que la mythologie grecque, et votre livre en particulier, Soledad Bravi, nous rappelle au fond un des plus vieux tabous de l'humanité, à savoir que c'est au sein de notre famille qu'on court les plus grands dangers. Au fond, si on doit mourir un jour dans notre souffrance, il y a plus de chances que ce soit dans notre famille que dans le couloir de métro avec des inconnus. Et c'est ça que nous rappelle en permanence la mythologie grecque. Vous ne trouvez pas ?
C'est que les méchants sont dans la pièce à côté. C'est horrible.
Ben oui, c'est pour ça que votre livre est à la fois horrible et drôle.
C'est une vision absolument atroce. Je ne l'avais pas vue comme ça. Voilà.
Ben pourtant, c'est ce que vous nous racontez. Et Narcisse, alors ? Parce qu'on en fait toujours. Narcisse, vous ne lui avez pas consacré autant de place que j'imaginais.
Ben en fait, parce que j'étais plus sur toutes les conquêtes de Zeus et j'avais envie juste à la fin de raconter les histoires les plus connues comme Narcisse, Sisyphe, Tantale. Et même Thésée, parce que c'est pas un des fils de Zeus. Et Narcisse, il est vraiment spécial parce qu'il est fou de lui en fait, mais il est fou de lui pas à cause de lui, c'est parce que une déesse, tout d'un coup, parce que il rejetait les femmes, parce qu'il est très très beau, et ça ne l'intéressait pas de se faire dragouiller par des jeunes filles. Et elles, agacées et vexées, vont se plaindre à une déesse, et la déesse punit le pauvre Narcisse et le fait tomber amoureux de lui-même. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de se regarder dans des reflets de vase, quand il voit son reflet dans un étang. Et il trouve ça, il se trouve tellement beau qu'il dit « la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue, il vaut mieux que je me laisse mourir ». Et donc, il se laisse mourir. Et après, à l'endroit où il est mort, il y a une fleur qui apparaît, on va l'appeler Narcisse. Mais en fait, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que quand il va traverser le Styx, donc le fleuve qui amène aux enfers, et à la différence des enfers, comme nous on l'appelle aujourd'hui, les enfers, il y a le paradis, il y a plein de catégories différentes, et c'est là où on va être jugé pour aller justement dans une de ces catégories. Mais on devrait avoir très peur, parce que quand même, on traverse le fleuve de la mort, et c'est un horrible vieux monsieur avec une barbe qui s'appelle Charon qui vous fait traverser. Et Narcisse, au lieu d'avoir peur, lui, il se regarde dans le fleuve pour voir s'il est vraiment beau. Voilà, mais ça, je trouve ça vraiment délicieux.
Et en deux mots, le supplice de Tantale, parce qu'il nous reste qu'une minute, mais je l'adore, le supplice de Tantale.
Bah, le supplice de Tantale, c'est que Tantale, il passe son temps à se vanter de d'avoir la chance d'être sur l'Olympe à tous les Terriens. Et puis un jour, il a l'impression d'être tellement incroyable de pouvoir parler à un dieu. Il se dit, je vais tester quand même leur clairvoyance, et il leur donne à manger son propre fils. Et donc les dieux sont absolument outragés, et Zeus, pour le punir, demande à son frère, donc Hadès, un supplice vraiment horrible, qui soit surtout un supplice éternel. Et le pauvre Tantale, et donc on le met dans l'eau jusqu'au cou, et dès qu'il essaye de boire, l'eau se retire, et dès qu'il essaye de manger, la branche avec une pomme au-dessus de sa tête se retire également. Donc il ne peut jamais assouvir ni sa faim ni sa soif. C'est atroce.
Merci Soledad Bravi. Les amours de Zeus, la jalousie d'Héra et autres histoires amusantes, c'est paru chez Rue de Sèvres.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain à suivre le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Vous recevez Michel Onfray.
Oui, Michel Onfray, donc le philosophe qui secoue la France, ambassadeur de Rabelais, Montaigne et Voltaire. Il assume son rôle, briser les idoles.
Bonne émission.